Alors, je sais même plus comment démarrer le podcast. C'est vous dire bonsoir tout le monde. Je sais même plus comment faire, comment lancer les trucs. Parce que c'est comme le stand-up, tu sais. On dit souvent si tu montes pas sur scène tous les jours, tu prends même 2 jours sans faire de scène. Et ben après, quand tu remontes sur scène, t'es un peu perdu, tu sais plus trop comment faire. Là, j'ai juste fait une semaine sans podcast. Et ça y est, je ne sais plus sur quel bouton je dois appuyer. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'ai vu qu'il y avait deux, trois personnes dans le chat déjà, c'est cool. Salut, il y a Gaka, il y a Farenax qui est là, il y a Vancor, ça fait longtemps effectivement. Salut, salut, ça fait plaisir. Alors cette semaine, vous avez vu peut-être le titre de cet épisode incroyable, Insulter 600 Bretons. Insulter 600 Bretons d'un coup. D'un coup, je les ai taillés d'un coup, ces 600 Bretons. Je vais vous raconter ça. En fait, j'ai fait mon premier festival, ma première participation à un festival d'humour. C'était en Bretagne. Et j'étais face à mon plus gros public jusqu'à ce jour. J'avais jamais fait une salle aussi grande. J'ai fait 600 personnes. Pas que moi, hein, il y avait d'autres humoristes. En fait, la soirée, c'était le tremplin des nouveaux talents de ce festival. Et je vais vous raconter tout ça juste après. Mais donc, on était plusieurs humoristes à passer. Il y avait un petit concours avec un prix à gagner. Bon, je vais vous raconter tout ça. Mais c'était trop bien. Petit teasing. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. Farenax, tu vas pas rester longtemps. Ok, mais c'est pas grave. Déjà, le simple fait d'être venu faire un petit coucou, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais peut-être vous parler d'un petit jeu aussi. J'ai joué un jeu cette semaine. Ce n'est pas Final Fantasy VII, donc je pourrais éventuellement vous parler de ça. Et côté vie de prof, j'ai un peu avancé sur l'HDR. En fait, je pense que j'ai compris des choses sur l'HDR, donc je vais aussi vous parler de ça. Par quoi est-ce que je commence? Maintenant, je me demande de par quoi est-ce que je commence. Peut-être par vous rappeler mes dates. C'est vrai que je ne le fais pas assez. Ou vous rappeler aussi qu'il faut vous abonner peut-être à toutes les plateformes, mais partager le podcast. Mais surtout, surtout, et je me rends compte que je ne le fais pas assez, mettez des likes sur les applis de podcast. Mettez les 5 étoiles qui vont bien. Vous savez quoi? Si vous écoutez même juste une seule fois de podcast, mettez les 5 étoiles. On s'en fiche. Et refermez le podcast. Ne l'écoutez plus, c'est pas grave. Farenax, je vais bientôt vous croiser dans les couloirs. Ah, petit retour côté IUT, ben, ça fera plaisir de se croiser, ouais. Ça fera plaisir. Ouais, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout pour les dates, donc je vais être. Non, mais ça sert à rien. Je vais vous en reparler après quand je vous parlerai de la Bretagne. Je sais qu'en octobre et en décembre, en novembre, je serai à Mauves, dans le 44, et du côté d'Angoulême. Mais c'est après l'été, on a le temps d'en reparler. D'ailleurs aussi, petite annonce pour les gens de l'Est, mais ça avance ma quête de date dans l'Est. J'ai chopé tous les contacts pour Strasbourg. Et la région. En fait, quand j'étais là en Bretagne, j'ai joué avec un humoriste de Strasbourg, Franck, et c'était super cool. Il m'a filé tout un tas de listes d'endroits et de gens à contacter du côté de Strasbourg, mais aussi un peu autour. Je cite comme ça rapidement la Péniche Mécanique, la Péniche du Rire, le Potatoes Comedy Club, le Fuego. Voilà, j'ai des listes d'endroits à contacter. Et donc, j'essaye de venir peut-être dans l'Est. Hein. En parlant de voir dans les couloirs, je n'ai pas pu participer à la remise des diplômes hier. Ah, moi non plus, je n'ai pas pu y être de toute façon. Donc, tu vois, on ne se serait pas vu encore, c'est dommage. Ouais. Mais on ne se serait pas vu, vu là-bas. Thompson, qui vient d'arriver. Salut Thompson, bienvenue à toi, installe-toi. On est parti. Pour ce petit épisode. Donc, Strasbourg, ça arrive. En tout cas, j'y taffe. Je ne dis pas que ça arrive, mais j'essaie d'y taffer. On va voir, je vais essayer de contacter des gens et puis on verra s'ils me répondent. Je fais un détour, donc on a dit, je vais vous raconter tout ce voyage breton qui était assez incroyable. Salut Farenax, ce voyage breton qui était vraiment incroyable. Et je fais juste un tout petit détour avant par la vie de prof, si ça ne vous dérange pas. Juste pour vous dire que j'ai avancé sur cette histoire d'HDR. En fait, à force d'écrire et de réécrire, je me suis heurté à un mur. Je me suis heurté à un mur qui est que, en fait, l'état de l'art de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à part les derniers, tout derniers travaux, il est hyper daté. Et en fait, si je devais réécrire tous mes articles pour écrire une HDR qui a du sens, il faudrait que je mette à jour tous les travaux, que je fasse un vrai travail de repositionnement de tous ces travaux. Et il y en a qui ont plus de 10 ans, qui ont quasiment 10 ans, quoi. Et je ne me voyais pas faire ça. Et à force d'écrire et de réécrire, j'ai quand même eu des idées. Et il y a un collègue, plusieurs collègues, qui n'arrêtent pas de me dire « Mais en fait, l'HDR, tu peux aussi ne pas trop te prendre la tête et simplement copier-coller les articles tels quels, sans les réécrire, et juste écrire une introduction et une conclusion, alors un peu dense, hein, avec un peu d'espace, juste pour expliquer pourquoi certains travaux, peut-être, tu les as faits à ce moment-là, ils étaient un peu plus vieux, etc. etc. » J'avance vite parce que je ne veux pas vous saouler avec ces histoires d'HDR. Mais en fait, j'ai trouvé déjà le fil rouge. Et en fait, je pense que c'est exactement ça que je vais faire. Et ça va me simplifier énormément le boulot. Donc voilà, j'ai trouvé mon fil rouge. J'ai mon contenu. J'ai plus qu'à copier-coller les articles. Et j'ai plus qu'à écrire intro, conclusion et des petites sections de transition. Mais ça devrait le faire. Allez, on attaque le voyage breton. Quelle histoire, quelle aventure incroyable. Je pense que c'est ma meilleure expérience stand-up. J'ai fait un passage télé pour l'émission Panam Comedy Club. Et déjà, c'était hyper cool, le passage télé. Parce que, tu sais, on prend soin de toi un petit peu. Y a toute la production, il y a toutes les équipes qui te mettent bien. Mais il y avait un peu de stress, il y avait une ambiance, ce passage télé, c'était pas si évident. Là, c'était que du bonheur. Déjà, première chose qui était assez marrante, c'est qu'à la base, j'avais pas été sélectionné du tout pour le festival. En fait, ils m'ont contacté genre il y a un mois pour me dire qu'il y avait eu un désistement et que comme ils avaient bien aimé ma candidature, elle était plutôt bien placée, bon, peu importe. Ils m'ont dit, on a pensé à toi, est-ce que tu es dispo ? Banco, j'accepte. Il faut savoir donc, que ce festival, c'est un gros festival en Bretagne d'humour, hein, c'est un assez gros festival qui dure sur plusieurs jours. Et donc, c'est pour participer seulement au tremplin. Donc, c'est la soirée du samedi. C'est une dizaine d'humoristes qui font chacun 10 minutes. Et puis, il y a un prix du public, un prix du jury. Et puis on joue dans des super conditions devant 600 personnes, donc sur le papier déjà c'était trop bien. Il faut savoir que billet de train pris en charge, nuit d'hôtel pris en charge, et en plus ils ont insisté pour qu'on fasse deux nuits d'hôtel parce qu'ils voulaient qu'on vienne la veille, et ils nous ont permis d'aller voir le spectacle de Guillermo Guise. Je vais revenir sur ça aussi, hein. Donc billet de train pris en charge, hôtel pris en charge et petit cachet de 100 €. 100 € pour la participation. Ouais, nickel si tout est pris en charge. Franchement, trop agréable. Tu vois, là, je participe à un concours qui est en Normandie, le Touc Comedy Club. Vous vous souvenez, j'ai déjà gagné le premier round, mais il y a un deuxième round. Là, rien n'est pris en charge pour le Touc Comedy Club. Alors que là, tout est pris en charge et en plus, on a un petit cachet. Alors, je n'ai pas encore reçu mon cachet, mais ça ne saurait tarder. Déjà, c'est trop cool. Tu vois, rien que de jouer dans ces comptes, rien que ça, déjà, ça envoie que de la bonne vibe. Et tu te dis, ah ouais, c'est cool. Ça change, en fait, des conditions de merde dans lesquelles je suis un peu habitué à jouer. J'y vais. On prend le train. C'est parti. Direction la Bretagne. Donc, c'était à Plougastel, le festival Les Feux de l'Humour, à côté de Brest. On arrive à Brest, ils viennent nous chercher, ils nous installent à l'hôtel. Alors l'hôtel de la gare de Brest, d'accord ? Ils ne nous ont pas non plus mis au rite brestois ou breton. Mais franchement, très clean, très cool. l'hôtel, pas de souci. On va voir le spectacle de Guillermo Guise le soir, le vendredi soir. Je me suis pris une grosse baffe dans ma gueule. Grosse baffe dans ma gueule. J'ai adoré son spectacle. En fait, il a un ton, et j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est marrant quoi. Mais je disais qu'il y a un truc sur les artistes qui m'énerve, c'est que je trouve que les artistes, ils se sentent trop importants. Ils se prennent trop la tête. Genre, ouais, grâce à nous, on apporte du rire aux gens, on a des choses intéressantes à dire, et gna gna gna, et gna gna gna. Et lui, justement, tout son spectacle, il est hyper conscient de ça, et il a un discours en mode, c'est normal qu'un artiste, à un moment, il n'ait plus rien à dire. Et il y a un truc hypocrite de la part des artistes de continuer à essayer d'être pertinent, alors qu'en réalité, ils n'ont plus rien à dire, mais les gens, ils viennent quand même les écouter, et ils payent quand même pour les écouter. Et lui, il a cette espèce de double discours très malin, où il est hyper conscient de ça, que peut-être il est arrivé à un moment où il a moins de choses à dire, où il est moins pertinent. Mais c'est trop malin. Franchement, c'était super fort. Le spectacle, il a duré 1h30. Il nous a fait 20 minutes de son nouveau spectacle aussi. Ah, c'était trop, trop bien. J'ai adoré. Je pensais pas. En fait, j'ai même été surpris. Je connaissais un peu Guillermo Guise, mais je me rendais pas compte qu'il avait ce ton aussi. Je dirais pas anti-système. Bien sûr, il est de gauche, ce mec, tu vois, mais. Ouais, c'est même pas gauche, anti-système, peu importe, là. Peut-être que je vais sur des clichés. Mais un truc un petit peu de. Un peu hors système. C'est un peu ce regard un peu critique sur le game. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et après, ce qui était cool, c'est qu'avec un autre humoriste, en fait, c'était pas prévu. Mais pour nous ramener à l'hôtel, en fait, il y avait plus de place dans la voiture. Et donc, on a été obligés, c'est pas grave, hein, mais de monter dans la même voiture que Guillermo. Et donc, on s'est retrouvés tous les trois avec Guillermo et l'autre humoriste à l'arrière de la même bagnole. Et on a discuté, on a échangé un peu sur les blagues. Hyper, hyper cool, quoi. C'était trop bien. C'était trop bien. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, le temps de rentrer à l'hôtel, 15, 20 minutes, même pas. Mais on a échangé, il n'y a pas eu de small talk. On est allé direct sur les blagues, direct sur le fond, direct sur ce qui était marrant, pas marrant. C'était trop, trop bien comme échange, hyper rapide, mais hyper sympa. Il m'a pris une blague au passage. On brainstormait dans la voiture sur un truc qu'il faisait. Et j'ai balancé une idée. Il m'a dit, ah, je la note, c'est pas mal. Donc je surveillerai si je vois la blague dans le prochain spectacle. Anticonformiste, tu dis, encore. Ouais, c'est un peu ça. Quand je disais anti-système, il y a un truc de... Je suis pas en train de dire que voilà, la plupart des artistes, ils sont en train de dire, ah, être artiste, c'est trop bien, c'est important. Ah, le système, il est trop bien. Le métier d'artiste, gna gna gna. Et lui, justement, il tape dessus. Il dit, non, c'est de la merde. Enfin, il le dit pas comme ça. Moi, je le dirais comme ça, mais... Mais il avait un petit peu cet angle-là qui me plaît bien. Donc j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. On rentre à l'hôtel, on fait un gros dodo. Et le lendemain, en fait, on s'est fait chier. Tout le samedi, on s'est un peu fait chier parce que le seul truc, on était à Plougastel. J'ai rien contre Plougastel, surtout qu'on a rencontré Monsieur le maire. Alors si Monsieur le maire écoute le podcast, j'ai rien contre Plougastel, mais à part des fraises... Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas à part bouffer des fraises. D'ailleurs, on en a bouffé des fraises. Ils nous ont mis des cagettes de fraises, des barquettes de fraises partout dans les loges. C'était vraiment un festival de bouffage de fraises assez violent. On s'est un peu fait chier le samedi. En fait, le spectacle était le soir à 20h30 et nous, on était là, on n'avait rien à faire. Le seul truc qu'on avait à faire à un moment, c'est de faire les balances. Et ça, c'était quand même assez cool. Je vous disais sur le côté beau spectacle, bien organisé. En fait, là, il y avait toute une régie, toute une équipe, tout un plateau technique qui travaillait pour nous faire le spectacle que nous, on voulait, quoi. Ils nous ont demandé à chacun quel éclairage on voulait, quelle musique on voulait, quel accessoire, disposition on voulait. Et ils s'occupaient de tout. On n'avait rien à faire. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand tu es débutant stand-up, quand tu fais tes premières scènes, tes premiers plateaux, dans les bars, dans les restos, même dans les petits cafés-théâtres, c'est un peu bricolo, quoi. Tu es un peu obligé de tout faire toi-même. Tu fais ta régie, tu fais ton setup, tu fais ton plateau. Tu gères tout, quoi. Tu es l'homme à tout faire et tu fais le spectacle. Là, on avait juste besoin d'arriver, de dire ce qu'on voulait, de faire nos blagues. Et basta. Et il n'y a rien besoin de ranger, rien besoin de préparer. Et en fait, ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable parce que tu peux vraiment te concentrer sur ce que toi, tu veux faire. C'est comme moi dans mon métier d'enseignant-chercheur. Tu sais, des fois, dans mon métier d'enseignant-chercheur, je vous explique un peu à quel point c'est trop chiant le côté administratif, chercher des financements pour la recherche, faire des tâches qui sont, par exemple, la gestion des jurys, des commissions, qui ne sont pas du tout, finalement, des tâches d'enseignement ou des tâches de recherche. C'est juste que c'est des tâches qu'on doit faire pour que le système y fonctionne. Il n'y a personne pour le faire, en fait. Sinon, on ne le fait pas, tout se casse la gueule, tu vois. Mais du coup, c'est fatigant parce qu'on ne fait pas. Il devrait y avoir du personnel pour nous soutenir et pour faire ça. Du personnel administratif, du personnel de soutien. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas assez. Et donc, on est souvent obligé de faire autre chose que notre métier, c'est de filer un coup de main pour l'administratif, filer un coup de main pour la gestion, etc., etc. Et là, c'est un peu la même chose avec le stand-up. On est souvent obligé de filer un coup de main. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose quand c'est filer un coup de main, mais c'est quand tu fais quasiment plus ça que ton activité principale, ça devient dérangeant. Des fois, dans mon métier, c'est un peu le cas. Et là, dans le stand-up, c'est beaucoup le cas quand tu débutes. Tu fais beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Tu fais des flyers, tu communiques sur les réseaux sociaux, tu organises, tu gères les dates, enfin bref. Et tout ce que tu as envie de faire, toi, normalement, c'est de monter sur scène et faire des blagues. Et ça, j'ai kiffé. Juste monter sur scène, j'ai fait mes 10 minutes. Alors attendez, je vais un peu vite. On arrive le soir. En plus, ce qui était quand même sympa, c'est qu'on a eu le temps un petit peu de discuter avec les autres humoristes. Je passe ça un peu rapidement parce que j'ai pas envie de dire grand-chose sur eux, mais trop sympa, les mecs et les filles. Il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Il y avait des gens de Lille, Bordeaux, il y avait des gens de Strasbourg, justement, d'où le mec qui m'a donné comment les lieux pour Strasbourg. Et donc, du coup, c'était quand même cool de les rencontrer. J'ai aussi des humoristes que j'avais déjà croisés, donc c'était plutôt sympa. Thompson qui me dit, mais les très gros cerveaux, ils font que de la recherche. Ah! T'es en train de dire que je suis pas un très gros cerveau. Pas tant que ça, Thompson. Même les très gros. Alors, effectivement, tu as des gens, une fois qu'ils sont bien en place dans le game de la recherche, disons que c'est plus facile pour eux de se concentrer sur la recherche. En fait, quand ils ont une machine qui est bien huilée, qui fonctionne bien, ils ont moins besoin effectivement de faire autre chose à côté. Mais même les plus gros, en tout cas dans la recherche publique, hein, celle dans laquelle je suis, CNRS, à université, ils font des tâches administratives à côté. La première tâche qu'ils doivent faire, même les gros cerveaux hein, dont tu parles là, on va dire les gros, quand je dis les gros cerveaux, moi ce que j'entends, c'est peut-être les professeurs qui ont beaucoup de bouteilles et qui ont effectivement une belle réputation, qui sont bien installés. Ok. Même ces mecs-là, ils doivent se faire chier à rédiger des budgets, des plans et rédiger des réponses à appel à projet pour candidater, pour obtenir des financements. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas exactement de la recherche qu'ils font, tu vois. Donc même les plus gros doivent le faire. Après, c'est en général plus facile pour un gros, on va dire, en tout cas pour quelqu'un qui est déjà bien en place, de le faire, parce que comme il a une légitimité, c'est plus facile pour lui parfois d'obtenir des financements. Et donc, d'une certaine manière, et puis en plus il est bien entouré, il y a de moins en moins d'efforts à faire et il peut se concentrer un peu sur la recherche. Mais en réalité, même les plus gros cerveaux, ils gaspillent énormément de temps à faire donc de la budgétisation, de la ressource humaine, parce qu'en fait il faut déterminer qui tu vas recruter sur tes projets aussi, que ce soit des ingénieurs, des doctorants. Donc il y a tout un aspect aussi gestion du personnel qui est parfois très compliqué à mettre en place et à faire suivre. C'est des interactions sans arrêt avec les administrations pour la gestion des contrats, la gestion des budgets, la gestion des financements. Il y a tout cet univers administratif. Et ben en fait, les chercheurs, ils doivent mettre la main dedans. Donc c'est une bonne question, Thompson, ta question. Mais justement, moi je te réponds, même les plus gros, ils sont un peu pris par cette tâche-là aussi. Et c'est de la merde, tu vois. Enfin, c'est de la merde. J'ai rien contre ces métiers-là ou les gens qui font ça. C'est juste que nous, chercheurs, enseignants, on ne devrait pas le faire en théorie. Tu vois, on ne devrait pas le faire. Ça devrait être des personnels dédiés, bien payés pour le faire, qui le font, quoi. Donc, ouais, voilà. Et donc, côté stand-up, je rebondis sur le... Ouais, c'est du gaspillage, exactement. Mais en fait, j'ai des collègues au labo qui, justement, on a des ingénieurs, on a du personnel de soutien. Je dis on en a, mais on n'en a pas assez. Et il y en a, ils le voient. Même le personnel de soutien, ils le voient, ils ne comprennent pas. Enfin, ils ne comprennent pas. Ils connaissent la situation de l'université ou de la recherche publique, mais ils nous soutiennent un petit peu dans ce truc-là. Ils disent, bah oui, on comprend pas pourquoi vous perdez autant de temps à faire toutes ces tâches. Ça devrait pas, vous devriez vous concentrer sur autre chose. En fait, chacun un petit peu son truc. Après, ce n'est pas inintéressant de comprendre aussi comment un budget, ça marche ou comment une embauche, ça se passe. Mais je te jure qu'on dépense vraiment beaucoup de temps et d'énergie pour ça.
Même les plus petits cerveaux comme moi.
Surtout d'ailleurs, surtout. Et donc voilà, côté stand-up, j'y retourne le spectacle. 20h30, ça arrive, ça démarre. En fait, en réalité, après, moi, j'avais un peu de stress. Ah, je vais vous dire, j'étais... Première fois que je jouais devant 600 personnes. La salle pleine, complète, énorme salle, trop belle. Non, t'inquiète, Thompson, c'était pour la blague. J'essaie de faire des blagues, tu sais, tout le temps, donc y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc, ouais, première fois que je jouais devant 600 personnes, j'étais très impressionné. Et en fait, une fois que le premier il est passé et que j'ai vu qu'on allait enchaîner quasiment aussi rapidement que sur un plateau classique, eh ben, ça m'a vachement rassuré. Parce que je me suis dit, mon passage, je suis quasiment sûr, il va marcher. Et en fait, je fais mes 10 minutes. Et au pire, si ça se passe mal, je fais juste 10 minutes, je sors. Comme tous les plateaux classiques de stand-up. Donc, une fois que j'ai vu le premier passer, ça m'a fait du bien. Ah oui, hors de passage, d'ailleurs, j'ai eu de la chance. J'ai pas tiré la première place. Je dis j'ai eu de la chance parce que, on le sait, la première place, elle est souvent difficile. Et même si aujourd'hui, je pense que je suis capable de la gérer, quand même, dans un environnement nouveau et impressionnant comme celui-ci, tu vois, j'avais pas envie de passer premier. J'avais envie de voir un peu les autres, comment ça allait se passer d'abord. Et donc, j'étais quatrième ou cinquième, un truc comme ça, je me souviens plus là. Quatrième, je crois d'ailleurs. Le premier passe, très bien. Ça se passe super bien pour lui. Déjà, ça me rassure. La deuxième personne qui passe, ah, ça se passe un peu moins bien. D'ailleurs, c'est la seule personne pour qui ça s'est, on va dire, moins bien passé. Ça n'a pas été non plus un bide monumental, mais ça a été un peu dur, on va dire. Troisième personne, ça repart, ça marche très bien. Ah non, moi j'étais cinquième. Quatrième personne, ça marche très bien. Après, c'est mon tour. Et alors moi, qu'est-ce qui se passe? Première blague, moi je suis débile. Je me suis dit, normalement, sur un passage comme ça, tu testes pas des blagues. Et moi, bien sûr, je me suis dit, bah, je vais commencer par deux tests de blagues. Mais je le savais. Je savais ce que je faisais, en fait. Je savais que la suite, ça allait marcher. Et donc, je commence mes deux tests. Premier test, ah, ça marche pas trop. Pas trop de rire. C'est un peu gênant, même. Deuxième test, ah, là, ça prend. Le deuxième test, la blague et les petits tags qui vont avec, les petites blagues qui l'accompagnent, ça marche pas trop mal. Et je me dis, bah là, je suis chaud, c'est parti. Et là, j'attaque sur mon vrai passage classique, qui est un passage où j'insulte les Bretons, en fait. Et je savais que ça allait marcher. En fait, dès le départ, je leur dis, je vous préviens, vous allez sûrement me huer avec ce que je vais vous raconter. C'est un passage, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un peu le passage que je joue en ce moment. Mais j'attaque fort. En plus, j'avais une voix vraiment agressive sur le truc anti-breton. Et la salle, elle pète un plomb. Mais elle pète un plomb. Il y a 600 personnes qui sont en train de me huer, de me hurler dessus. Hein. Ouah, ouah. Ah non, mais c'est une folie. Ah, c'était trop drôle comme situation. Trop marrant. Parce que c'était volontaire. Il le faisait pas avec la sincérité. Il me huait parce que je leur avais dit « Vous allez me huer pour ce que je vais vous dire. » Et en fait, il jouait le jeu. Mais du coup, il y avait une énergie, une force. Ça a trop bien marché. Après, j'avoue, c'est un petit peu une petite technique. Je crée un peu, c'est un peu comme un... Je dirais pas un tour de magie, mais c'est un peu une arnaque, ce truc. Je sais qu'ils vont me hurler dessus. Je sais que ça va créer une énergie. C'est un peu marrant. C'est pas si marrant que ça, mais c'est un peu marrant. Et je les pousse à me hurler dessus. Et après, du coup, une fois qu'ils sont chargés d'énergie comme ça, je déroule tout mon passage sur les Bretons. Ça a trop bien marché. J'ai même réussi à glisser une petite blague locale. Bon, là, ils étaient ravis. Et je finis sur le passage classique de ma famille nombreuse avec une petite blague de prof à la fin pour rappeler que je suis prof. Et ça a bien marché. Bah, je dirais que ça a un petit peu descendu quand même l'énergie de mon passage. Et c'est là où je sens que mon passage, il n'est pas assez fort parce que je compte beaucoup sur l'astuce de me faire huer au début du passage. Et en fait, on sent que les blagues, elles sont pas mauvaises, les blagues sont très bien. Mais on sent qu'elles sont pas assez punchy après. Au début, oui. Mais après, il y a un truc où, disons que ça descend un petit peu doucement. Après, les blagues, elles restent bonnes et elles restent hautes. Hein. J'ai quand même pris parmi les meilleures blagues, enfin, certaines de mes meilleures blagues. Mais agencées comme elles sont agencées, le passage redescend un petit peu. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte qu'il remonte vers la fin. Et là, ce serait parfait. Et donc, je fais mon passage, 10 minutes, un peu moins, je crois. J'ai dû faire 9 minutes. Et voilà. Mais après, les autres sont passés. C'était très, très bien pour tout le monde. Remise des prix à la fin. Donc, honnêtement, en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, des concours, j'en ai fait des concours. Je sais pas si je devrais dire lesquels, mais j'ai fait des concours à Paris, tu vois. Et j'ai souvent senti que c'était un peu une arnaque. Mais peu importe, on le sait en y allant. Mais les mecs, tu sens que le vote, ils s'en foutent un peu. En fait, au final, ils choisissent ce qu'ils ont envie de choisir, blablabla. Bla, bla. Et là, j'ai trouvé que les gagnants... Alors, je n'ai pas gagné. Il y avait 3 prix à gagner. Le grand prix du jury, parce qu'il y avait un jury. Le coup de cœur du jury, c'est aussi le jury qui choisit, mais ils choisissent en général une performance un petit peu alternative, un peu différente, où il y a un peu de musique, par exemple. Et justement, le coup de cœur du jury, c'est un mec qui faisait un peu de beatbox dans son passage. Ça marchait bien. Donc, le coup de cœur a été pour lui. Et le vote du public. Eh bien, le gagnant qui a gagné le grand prix du jury et le vote du public, c'est le même. C'est la même personne qui a gagné les 2 prix. Le coup de cœur, c'est donc un autre gars. Et franchement, c'était mérité. J'ai trouvé que c'était mérité. En fait, son passage, il a défoncé. Alors, il faisait de la musique lui aussi. Il avait une guitare. Mais son passage, il était trop bien. La salle, elle avait une belle énergie quand il a fait son passage. Et en plus, lui, il était hyper sympa. Je trouvais que c'était tellement mérité. Donc, ok, j'ai pas gagné. Mais franchement, je trouve que il y avait un tel niveau en plus avec les autres humoristes. Et que c'est mérité. C'est mérité pour celui qui a gagné. Moi, je trouve que mon passage, il est très fort au début. Il est pas mal marrant. Mais il redescend un petit peu trop. Il redescend un petit peu trop. Et oui, donc c'est normal. Il faut que je le retravaille. En fait, je ne suis pas assez structuré. Il y avait le mec d'Alsace, Franck. Le mec d'Alsace, il avait, lui, hyper bien structuré son passage. Hyper mathématique. Ça finissait sur une petite note. C'est grâce à vous, Plougastel, que je suis là. Enfin, ça faisait vraiment un truc un peu émotionnel qui, du coup, quand ça redescend, ça remonte à la fin sur la touche émotionnelle. Trop bien son passage. Là, je le cite lui, mais les autres aussi. Hein, ils avaient des super passages où clairement identifier le début. Et même si ça redescend un peu au milieu, ça finit sur une note très forte à la fin. Moi, j'ai l'impression que j'étais le seul qui avait un début très fort, une légère redescente et jamais un moment où ça remonte. Thompson, moi, j'ai été dans un jury littéraire et la composition du jury joue énormément sur le choix final. Effectivement. Non, mais effectivement, le jury, ça joue. Mais là, tu vois, je sentais que tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Tu te dis pas... tu te dis, en fait, avec ce passage, un autre jury l'aurait choisi le même mec. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas sur un truc un peu ambigu où, ah, bah, on ne sait pas lequel choisir. Et du coup, suivant le jury, ça change. Là, il était tellement, il avait tellement convaincu la salle. Et peut-être qu'il a eu de la chance ce jour-là. Peut-être que son passage, il a mieux marché que d'habitude. Bah, tant mieux pour lui, tu vois. Gaka, un Alsacien, un voisin. Mais oui, je t'ai dit, Gaka, en début de podcast, je vous ai dit, j'ai rencontré donc, pendant ce voyage breton différents nouveaux humoristes, et dont un Alsacien, qui m'a donné plein de contacts autour de Strasbourg. Donc, j'espère pouvoir faire une date dans le Grand Est. C'est pas encore fait, mais j'essaye d'avancer mes pions dans cette direction-là. Voilà, donc j'ai pas gagné, mais j'ai passé un bon moment. J'ai bouffé plein de fraises. Qu'est-ce que j'en ai bouffé des fraises? Je vous ai dit, dans les loges, il y en avait partout, quoi. Et après, retour à l'hôtel, dodo, le train le lendemain, un peu long, mais retour à Paris. Et voilà, un week-end incroyable. Franchement, trop bien, quoi. Et le petit, moi, j'ai aussi apprécié, c'est con, hein, mais c'est les petites choses comme ça qu'on aime bien quand on fait ces activités-là. C'est que j'ai adoré aussi me retrouver, tu vois, 15 minutes dans la voiture avec Guillermo Guise, à échanger, mais même pas sur grand, direct sur les blagues. On n'a même pas parlé de carrière trop. Tout de suite, on est allé sur c'est quoi qui est marrant en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Ah, c'est drôle. Voilà, j'ai vraiment kiffé aussi ce passage-là, qui a duré juste un petit quart d'heure, mais qui était tellement, tellement je trouvais intéressant de voir un humoriste comme ça. Qui a autant de succès en plus, c'est super, super cool. Tant que ce n'est pas en Champagne ou en Meuse. A priori, non. Ce ne sera pas en Champagne ou en Meuse, Gaka. voilà, voilà. Alors, je voulais vous parler peut-être, si j'ai le temps, est-ce que vous m'accordez un petit peu de temps? Je m'étais dit, alors, j'ai un petit souci de... là, vous voyez un petit peu... Pourquoi je ne peux pas capturer El Chrome? Ah oui, parce que je ne suis pas sur le game, le loop. J'ai un petit souci de scène. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Je voulais vous parler d'un petit jeu auquel je joue en ce moment. Bah, pour finir. Donc, c'est pas en direct. C'est pas en direct, mais en ce moment, j'ai joué à Deathloop. Sans transition, hein. En plus, Strasbourg pour un week-end, c'est top, me dit Thompson. Eh ben, j'en suis sûr. Je suis sûr que ça peut être cool. Comme j'avais fait à Marseille, j'étais allé à Marseille et j'avais joué juste un petit, un tout petit passage le temps d'un week-end. Pourquoi pas faire la même chose à Strasbourg, quoi. Il y a quelqu'un qui a voulu poster un lien. Ah, j'ai pas mon. On n'a pas notre. Merde, on n'a pas notre admin préféré là ce soir, j'ai l'impression, avec nous, Axel. Heureusement, le bot. Il y a le bot qui est en train de... qui intervient, ça c'est cool. Ouais, vous voyez pas, vous, peut-être. Moi, je vois le bot qui me dit, j'ai bloqué ci, j'ai bloqué ça. Génial, Deathloop, j'ai adoré y jouer. Tu as des dates cet été? Pas encore de date, Thompson, de prévu, cet été. Pas encore. Il y a octobre et novembre. Mais c'est vrai que là, l'été, c'est plutôt calme. Pour l'instant. On verra. Après, ça peut bouger. Hein. Le truc là en Bretagne, c'est la plus grosse date que j'ai jamais fait. 600 personnes. Énorme festival d'humour. Je vous ai tout raconté là. J'ai rencontré Guillermo Guise, etc. Et bien ça s'est finalement décidé un mois avant d'y aller. Au dernier moment quasiment. Donc on ne sait jamais, ça peut le faire quoi. Ça peut sortir tout d'un coup une date d'été. Alors, Deathloop, j'ai joué à ça cette semaine et peut-être que je vous en reparlerai un petit peu quand j'aurai avancé. Je vois Vancor dans le chat qui est hyper enthousiaste sur le fait que je parle de Deathloop. Il dit j'ai adoré, humour, OST, blablabla, world building, ok. Donc Deathloop, c'est créé par nos chers amis de Arkane Lyon. Alors si vous savez, hein, c'est les gens qui sont derrière Dishonored et aussi Prey. Prey, j'en avais parlé dans le podcast. J'avais fait un épisode sur Prey. Et la particularité de ces jeux, c'est que c'est généralement les jeux de chez Arkane Lyon, c'est généralement des FPS qu'on appelle... Alors, on appelle ça en général des immersive sims. J'aime pas trop ce terme. Mais c'est simplement des FPS dans lesquels tu as un environnement assez flexible. Tu vas avoir pas mal de capacités à ta disposition, un objectif à atteindre, assez lointain dans la map par exemple, et en fait tu vas pouvoir utiliser plein d'approches différentes. C'est vraiment toi qui es censé un petit peu composer, naviguer dans l'environnement, voir un petit peu comment les personnages ils se comportent, les étudier et déterminer. Et oui, il y a plein de choses dans l'environnement aussi, hein. Il n'y a pas que les PNJ ou les ennemis, des leviers, des mécanismes, des systèmes, etc. Et c'est à toi de voir si tu préfères essayer de te la jouer furtive, te la jouer bourrin, résoudre une énigme qui te débloque un passage. Voilà, il y a en général plusieurs façons de faire. Et en plus, dans ces jeux-là, il y a souvent beaucoup de capacités. Tu as des armes, mais tu as aussi des pouvoirs un peu magiques. Et donc, ça rend la chose assez intéressante de ce côté-là, parce que tu peux vraiment approcher la chose de plein de façons différentes et composer toi-même un petit peu ta façon de jouer. Il y a un petit côté role-playing un petit peu, il y a un petit côté jeu de rôle, même si ce n'est pas exactement un jeu de rôle. Alors, en préambule, il faut que je dise, je ne suis pas hyper fan de Dishonored. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Dishonored, je n'ai pas trop accroché à l'environnement, l'univers. Il y a un truc qui ne fonctionne pas pour moi dans Dishonored. Et pourtant, sur le papier, le jeu, il a tout pour me plaire. Hein. Mais ça n'a pas marché. Par contre, Prey, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, si tu prends Dishonored, Prey ou Deathloop, le gameplay, en tout cas, de gros morceaux du game design sont très similaires. Et Prey, j'ai adoré. Prey, j'ai passé un super bon moment sur ce jeu. Je vous en avais parlé dans le podcast. Trop cool. Donc Prey, par contre, c'est un truc de science-fiction dans une station spatiale. Un peu horreur. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Deathloop, le postulat de départ, c'est assez particulier, mais c'est une ambiance un peu 70s, un peu avec une bande-son, des dialogues qui s'inspirent un petit peu de films d'action ou de films d'espions, vision un peu années 70, la musique, les looks, les blagues, les références. Mais on se place sur une île, toute l'action se passe sur une île, qui est coincée dans une boucle temporelle. Alors attention, elle est coincée dans une boucle temporelle parce que c'est la volonté des gens qui habitent sur l'île. En fait, le scénario, je ne l'ai pas encore très bien compris, en plus je ne l'ai pas fini, mais il y a un groupe de gens qui ont réussi à construire une machine qui maintient l'île dans une boucle temporelle. Donc en fait, tous les jours, c'est toujours la même journée. Tout ça, j'ai l'impression, juste pour pouvoir faire la fête tout le temps. Et le jeu commence, notre héros est amnésique, il est sur l'île, il fait partie de ce groupe de personnes, mais il est amnésique et il a envie de sortir de la boucle temporelle. Mais pour ça, il n'a pas le choix, il va devoir buter tous les autres mecs. Alors tous les autres, il y a 8 personnes à buter, je crois, 7 ou 8. Il y a 8 personnes à buter, et quand il les aura butées, la boucle temporelle, elle va se dissoudre, enfin on sait pas trop. J'ai pas forcément bien compris tous les tenants et les aboutissants encore parce que j'ai pas fini le jeu en fait. Honnêtement, pour l'instant, je vois que Vancor il est hyper enthousiaste. Moi, le scénario, je suis pas hyper convaincu. Je trouve ça un peu bizarre. On comprend pas trop pourquoi le monde il fonctionne comme il fonctionne. Tu dis, il y a du bon world building. Alors, je sais pas si tu parles en termes d'écriture ou en termes de level design. Mais le scénario, je le trouve pas super super. Et aussi, l'autre truc qui me freine un peu, c'est que je trouve que la boucle temporelle... Ouais, level design, ça marche, ouais. Là, je trouve que la boucle temporelle, en fait, c'est un peu un prétexte et que c'est pas si bien exploité que ça. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Returnal. Et si on prend un roguelike ou si on prend un jeu comme Returnal... Le concept de refaire toujours la même chose, il est complètement, il est intradiégétique, quoi. C'est vraiment cette mécanique de jeu vidéo, en fait, qui a toujours été présente, de recommencer les choses jusqu'à ce qu'on les fasse, jusqu'à ce qu'on connaisse le parcours par cœur. Ça a toujours été présent. Et ben, je trouve que ça marche bien dans un roguelike, ça marche bien dans un Returnal. Mais là, je trouve que ça marche pas si bien parce que en réalité, le découpage du jeu se fait par niveau. Donc il y a 4 niveaux principaux qu'on peut visiter comme on veut et on peut choisir le moment de la journée où on les visite. Donc le matin, il y a 4 moments de journée. Le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Le matin, on choisit un environnement. Le midi, on en choisit un autre. On peut revenir au même l'après-midi. On en fait un dernier le soir. Et une fois qu'on a fini la journée, et ben en fait, on recommence. La boucle est réinitialisée. On perd l'équipement qu'on n'a pas pu sauvegarder. Parce qu'en fait, après, il y a un mécanisme qui nous permet de sauvegarder des équipements. Et on recommence. Et donc, on va pouvoir explorer, re-explorer. Ah ben, cette fois-ci, je vais explorer cette partie le matin, cette partie l'après-midi. En fait, on peut mélanger complètement le parcours, on peut parcourir n'importe comment la boucle temporelle. On peut choisir, par exemple, d'explorer que les après-midi. Et rien que ça, je trouve ça un peu bizarre. Si on prend un jeu comme Majora's Mask, il avait cette notion de boucle temporelle. Mais Majora's Mask, il nous bloquait dans la boucle. C'est-à-dire que quand on était dans la boucle, si on voulait revenir le matin, on n'avait pas le choix que de réinitialiser. Là, en fait, on peut juste passer dans l'interface. En fait, on était obligé de vivre la réinitialisation de la boucle dans le jeu. Là, on peut passer par l'interface, choisir. Alors, je vais explorer cette section l'après-midi. Alors, je vais explorer cette section le matin. Et je trouve que du coup, ça pète complètement la sensation qu'on pourrait avoir de revivre vraiment la même journée en boucle et en boucle. Moi, j'ai aucune idée là, peut-être parce que j'ai pas encore assez joué, mais du lien temporel entre les sections. Je suis juste mes objectifs. On me dit, bah là maintenant, il faudrait que tu ailles tuer ce mec l'après-midi dans telle section. Je me rends l'après-midi dans telle section. C'est comme si j'avais choisi un niveau, peu importe le boucle temporel, et j'y vais, quoi. Une fois qu'on a lancé un niveau, en plus, le temps, il défile pas. Il n'y a pas un défilement du temps. Le temps, il est figé. Le temps qu'on fasse nos objectifs. Et après, quand on sort de la zone, on passe à la période de la journée suivante. Donc, je suis un peu mitigé sur le scénario. Par contre, alors, je vois, Vancor, tu dis que niveau écriture, tu n'as pas accroché plus que ça. Bah écoute, je suis complètement là-dedans. Niveau écriture, je n'ai pas accroché. Par contre, tu dis que c'est un très bon défouloir. Et c'est vrai que je retrouve des sensations, et même dans... Je dis, j'ai pas trop aimé Dishonored, mais c'est ce que j'aimais bien dans Dishonored. Il y a quand même un truc assez cool dans le mélange des capacités qu'on a et des armes qu'on a, et de comment on peut jouer avec l'environnement, jouer avec les ennemis. On peut vraiment faire beaucoup de choses, et rien que pour ça, le jeu, il est assez cool. L'ambiance, c'est vrai qu'elle est marrante. Il y a pas mal de blagues. Il y a une bonne bande-son, je suis d'accord. Mais je trouve, pour l'instant, l'écriture... Moi, l'écriture, honnêtement, elle me sort un peu du jeu, quand même, des fois. Il y a vraiment un truc de... j'y crois pas. Je sais même plus pourquoi les personnages y parlent. En fait, on ramasse tellement d'informations sur les personnages pour essayer, normalement, de planifier quelle serait la meilleure journée. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est ça, à la fin. C'est de réussir à comprendre quelle est la meilleure journée possible. Le meilleur parcours pour tuer tous les mecs dont on a besoin de tuer. Et on ramasse beaucoup d'infos, mais finalement on les utilise même pas, parce que le jeu il nous indique par des objectifs à l'écran, écoute tu sais quoi, maintenant on va faire ça, écoute tu sais quoi, maintenant on va faire ça. Donc je lis même plus, je regarde même plus les infos sur les différents personnages, déjà c'est incompréhensible, et en fait le jeu me guide. Donc là je trouve le jeu il se contredit en fait dans son game design. Là c'est un endroit dans le jeu où il se contredit, où il faudrait normalement que tu arrives toi-même à planifier la journée parfaite. C'est ça que le jeu il nous envoie comme signal. Mais en fait, le jeu il comprend que c'est trop difficile à faire, et donc il nous envoie des marqueurs pour nous prendre par la main, pour nous guider, parce qu'on n'y arriverait pas tout seul. Il est vrai que le jeu nous prend un peu la main sur cet aspect. Bah, exactement ce que je disais, Vancor. Ah ouais, tout à fait. Je suis. En fait, pour moi, il casse l'effet qu'il veut. Il y a un effet où on devrait normalement enquêter nous-mêmes, enquêter sur comment je vais faire pour être là le matin, tuer ce mec le midi, tuer les deux autres l'après-midi en une journée. Parce qu'après, oui, faut bien comprendre que même si on tue les gens, quand on recommence la journée, il faut de nouveau les retuer. Donc c'est ça un des enjeux du jeu. Mais le jeu, il pète complètement cet effet. Parce qu'il nous prend par la main et qu'en fait, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Bon, je pense que voilà. Écoutez, voilà tout ce que je vais vous dire sur ce Deathloop. C'est pas un mauvais jeu. Moi, j'aime bien. Je trouve que Dishonored, ça me plaît pas, mais je comprends que ce soit un bon jeu. J'aime bien Prey. Prey, j'ai adoré. Et je trouve qu'on retrouve des sensations un peu similaires à ce qu'on trouve dans les Prey, dans les Bioshock, dans les System Shock. Si on aime bien ces FPS un peu qu'on appelle immersive sim là, ouais il est cool, il est assez cool. Mais en termes de scénario et de construction d'univers, moi je le trouve un peu bancal. Pour moi Prey il est beaucoup mieux. Je préfère conseiller Prey que Deathloop. Je suis un tout petit peu déçu par ce Deathloop. Il est intéressant, mais pas assez, pas tant que ça. Moi, c'est l'effet exploration et récupérer tous les items, plutôt chill. Après, ouais, on peut prendre son temps. En fait, c'est ça qui est sympa, prendre son temps. C'est presque une blague, ça. Mais on peut un peu aller à son rythme, prendre son temps, explorer. De toute façon, on sait que la mort n'a pas vraiment de conséquences, on recommence. Donc, c'est plutôt sympa. Ah si, il y a un truc qui m'a saoulé aussi. Donc, ça, j'en ai pas parlé, c'est, je finirai sur ça, donc sur une note négative. Mais en fait, il y a un autre personnage sur l'île. Bah tiens, on la voit justement là à l'image. C'est Juliana. Et Juliana, alors elle est en général contrôlée par l'IA. Elle pop de temps en temps. Et je vais faire dodo, bonne nuit. Ça marche, Gaka. Bonne nuit. Et Juliana, en fait, elle pop de temps en temps. Et elle nous attaque. En fait, elle est à notre poursuite parce qu'elle veut nous empêcher d'atteindre l'objectif de briser la boucle. Elle cherche à protéger la boucle. Et en fait, parfois, Juliana, si on a le mode multijoueur activé, en fait, c'est le mode multi de ce jeu. D'autres joueurs peuvent prendre le rôle de Juliana. Ils arrivent dans ta partie et ils te chassent pour te buter. J'ai voulu tester dans un sens. J'ai laissé le mode multi allumé pour voir comment ça se passe. Honnêtement, c'est trop chiant parce que les mecs, quand ils se connectent en mode Juliana, en fait, ils te mettent des pièges. En fait, moi, je suis tombé que sur des mecs qui doivent très bien connaître le jeu et c'était impossible pour moi de les choper. Ils me mettaient des pièges à des endroits où eux, ils savaient déjà, et moi, je connaissais pas le jeu, eux, ils savaient déjà que j'allais passer par là. Donc, ils m'ont mis des pièges à des endroits que je connaissais pas. Je me suis fait défoncer à chaque fois. Je les ai même pas vus. C'était pas du tout intéressant. Il y a un truc de camping. Il y avait un gros camping de merde. J'ai jamais vraiment eu un face-à-face avec un autre joueur. Le seul moment où j'ai eu un face-à-face avec Juliana, c'est quand elle était contrôlée par l'ordi, par l'IA, quoi. Une horreur de se faire chasser à chaque partie alors que le gars a 400 de ping. Ouais, en plus, il y a eu un moment où à chaque partie, j'étais chassé par un mec qui me posait des pièges à des endroits que je pouvais même pas anticiper parce que je connaissais pas assez bien le jeu. Je trouvais ça pas du tout bien équilibré. L'idée sur le papier, elle est pas dégueu. L'idée, elle est plutôt bonne même. Cette espèce de chasse à l'homme l'un contre l'autre. Mais c'est trop déséquilibré. Trop déséquilibré. Et en plus, finalement, si on y réfléchit, bah, on s'en fout en fait de ça. C'est pas un élément de game design important. En fait, c'est plus rajouter une mécanique supplémentaire. Tu enlèves la partie de Juliana, le jeu, il est très bien comme ça en fait. Donc bref, j'ai pas pas convaincu forcément par cette mécanique de game design. Alors, au moins il est original. Là par contre, alors attendez, je vais quand même finir sur une note positive. C'est vrai quand même que à une époque où on a beaucoup de suites, beaucoup de remakes, beaucoup de jeux qui se ressemblent, là pour le coup, il y a plein d'idées nouvelles dans ce jeu quand même. Ah, nouvelles. Ça ressemble à du Prey et à du Dishonored, mais il y a pas mal de choses assez... Ils ont testé des trucs au moins. Et rien que pour ça, le jeu est assez cool. Il est assez différent pour que tu puisses t'amuser un petit peu quelques heures. Bon, allez. C'est vrai que l'épisode là, commence à être long. Je pense qu'il est temps, de tirer un trait sur tout ça. Je vous raconterai mes prochains déboires de stand-up quand il y aura d'autres scènes. Là, j'en ai pas forcément d'autres de prévues à court terme, mais comme je vous ai dit, des fois, ça change. Hein. À tout moment, ça peut changer. Likez ce podcast, partagez-le, mettez des étoiles. Et puis moi, je vous retrouverai du coup la semaine prochaine. Je vous dis bonne nuit et puis on va pouvoir aller se coucher. Allez, ciao!